l'histoire de la Bible. Ensuite, je la commenterai en quelques mots. Et je prie que le Seigneur exauce la prière de Robert. Cette histoire se trouve dans Jean au chapitre 11. Je vais lire 44 versets. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Dans cette histoire, vous avez deux sœurs, Marthe et Marie, qui habitent dans une maison ensemble, et elles ont aussi un frère, je l'ai dessiné en carré allongé parce qu'il est malade. Et puis Jésus-Christ, qui était ami de cette famille, vient les visiter, et il y avait déjà, et il y en aura encore plus après, des visiteurs aussi dans cette maison qui venaient voir Lazare qui était malade. Et on va voir qu'il va mourir. Alors là, il y aura encore plus de monde quand il va mourir. Et Jésus était rarement tout seul. Il avait en général toujours des disciples avec lui. Là, vous en avez 11 et je rajoute un 12e. C'est Thomas qui va prendre la parole pendant ce récit. Voilà, pour camper un petit peu les personnages de ce récit, on rentre donc dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare qui est malade. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la part de leur frère, de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra pas. « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici, il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément troublé et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément troublé, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre formait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là !» Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé, et Jésus leva alors les yeux au ciel et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors dehors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le, laissez-le aller. » Voilà, c'est la fin de la lecture de la parole de Dieu, que nous croyons être une parole inspirée, que Dieu a écrite. J'aimerais maintenant faire une lecture commentée, assez rapide, pour montrer plus exactement, pour que nous puissions admirer le Seigneur, le Christ, Jésus. Je vais dire admirer encore plus, parce que l'essentiel, c'est la lecture de la parole de Dieu. Jésus fait un chemin avec tous ses amis de la mort à la vie. Plus exactement, de la maladie, puis de la mort jusqu'à la vie. Je trouve dans la personnalité de Jésus, dans l'attitude de Jésus, beaucoup de discernement et de détermination, et j'admire le Seigneur pour ça. Je découvre aussi, tout au long de ce cheminement qu'il a fait, beaucoup ce que j'appelle des flèches de l'opposition contre lui. Et lui est allé jusqu'au bout, malgré tout. J'aime aussi redécouvrir à chaque fois que je lis cette histoire beaucoup de sympathie, c'est-à-dire cette capacité qu'a Jésus de souffrir avec l'homme. C'est ça la sympathie. Et je trouve aussi beaucoup d'humanité. Un Jésus qui nous rejoint parce qu'il nous aime et parce qu'il nous connaît. Je voudrais commenter ce texte en le relisant quasiment entièrement et essayer de montrer comment notre Seigneur est grand dans son attitude. Je propose de commencer au verset 4, l'introduction, je l'ai déjà lue, et on voit au verset 4 que quand on lui dit que son ami Lazare est malade, Jésus a tout de suite ce discernement en disant « Cette maladie ne se terminera pas par la mort ». Il n'a pas dit qu'elle ne passera pas par la mort, elle ne se terminera pas par la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. Jésus a tout de suite ce discernement que cette circonstance servira à la gloire de Dieu. Et tout de suite, il est précisé, au verset 5, que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il avait un grand amour pour cette maison, qui d'ailleurs le recevait assez souvent dans son cheminement sur la terre. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et pourtant, Jésus a ce discernement que personnellement, je crois que je n'aurais pas eu. Il aimait Marthe, sa sœur et Lazare, et pourtant, il reste encore 2 jours à l'endroit où il était. Moi, j'aurais pris mes clics et mes claques, et je serais parti pour essayer de le sauver tout de suite. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare, et il attend 2 jours. Quel discernement! Et puis viennent les premières flèches de l'opposition qui viennent de ses disciples. Il dit, allons, au bout des 2 jours, il dit, allons voir Lazare. Et les disciples, au verset 8, lui disent, mais les Juifs cherchaient à te tuer en Judée, donc dans cette région de Jérusalem, et tu y retournes. Voilà les Juifs, des disciples, qui essayent de faire changer Jésus d'avis, de lui faire peur. Et pourtant, Jésus répond avec cette détermination, quand il fait jour, je sais ce que je dois faire et je marche. Rien ne m'arrêtera, même pas la peur. Alors vient ensuite une autre flèche. Il s'en va donc et il dit que Lazare s'est endormi. Et cette flèche-là des disciples, mais s'il s'est endormi, il va se réveiller et il sera guéri, ça veut dire que c'est pas dangereux. C'est la flèche de ceux qui n'y comprennent rien de ce qui se passe. De ceux qui ne rentrent pas dans l'intimité de Jésus et qui ne comprennent pas ce qu'il y a dans son fort intérieur. Et Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Vous comprenez ? Lazare est mort. Mais cette détermination se poursuit en disant, je m'en réjouis qu'il soit mort. Extraordinaire. Parce que vous allez voir, vous, la gloire de Dieu. Je me réjouis de ce que vous n'étiez pas là. Et alors, survient un homme, ce fameux Thomas, cet homme qui découragerait un régiment, on le voit dans d'autres endroits, et qui dit à ses collègues disciples, « Allons-y, au moins on va mourir avec lui. » Quel encouragement pour le maître. Mais il y en a comme ça. Mais Jésus, pourtant, ne se décourage pas. Et il en reçoit encore une flèche d'opposition. Il arrive donc il arrive à Béthanie, et Marthe arrive, et au verset 21, elle dit cette fameuse parole que redira sa sœur aussi, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si les choses avaient été autrement, ça ne se serait pas passé comme ça. » Voilà une parole d'encouragement pour notre Seigneur. Si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Et Jésus en profite, saisit cette occasion pour lui dire ce dont il était absolument convaincu, ton frère ressuscitera. Sans aucun nombre de doutes, Jésus affirme, ton frère ressuscitera. Quel discernement et quelle détermination. Et alors Marthe, je trouve aussi que c'est une flèche de découragement, dans le sens où elle dit, oui, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour, c'est une réponse religieuse de ce qu'on dit toujours, qu'au dernier jour nous ressusciterons. Jésus ne voulait pas être religieux, il voulait montrer la puissance de Dieu. Et il lui répond, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, c'est moi. Et tout ce que tu as appris de religieux, c'est lié à moi et c'est moi qui suis devant toi. C'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et alors, on voit ensuite, au verset 32, que Marthe a appelé sa sœur, Marie, qui elle aussi vient voir Jésus, et qui lui fait la même remarque, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et là, en la voyant pleurer, Jésus frémit dans son esprit. Jésus fut profondément troublé et bouleversé. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est le Jésus Fils de Dieu et le Jésus homme à la fois qui rencontre l'être humain. Et quand il voit les Juifs qui pleuraient et Marthe, son amie qui pleurait, Marie qui pleurait, Jésus est profondément troublé et bouleversé. Il sent cette mort qui approche tous les hommes et dont aucun homme n'est exempt. Il sent la puissance de la mort et il est profondément bouleversé. Et au verset 35, le verset le plus court de la Bible, il pleure. Jésus pleura. Ce Christ qui nous rejoint dans notre état, et qui voit ses amis pleurer, qui voit la puissance de la mort, et qui pleure lui-même. Et dans cette situation, eh bien, on en trouve parmi la foule de Juifs qui le suivaient, qui disent ben, « Celui-là qui a rendu la vue à un aveugle, il aurait pu faire aussi que cet homme ne meure pas. » Quel encouragement. Ces hommes qui osent dire à Jésus ce qu'il aurait pu faire, ou au moins se le dire entre eux. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit à Jésus. Et Jésus est de nouveau profondément indigné, profondément bouleversé. C'est une phase de la vie de Jésus où on le voit le plus homme qui soit, puisqu'il était homme et Dieu à la fois. Et il approche de la grotte où était Lazare. Il dit qu'on roule la pierre, et là, Marthe lui dit « Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. » La flèche du découragement, j'allais dire, de l'humanité. Dans notre humanité, dans l'ordre des choses naturelles, un homme devait se décomposer. La mort devait déjà avoir fait son œuvre sur ce corps. Et c'était impossible qu'il en soit autrement, qu'il reste mort. Eh bien non, Jésus, à ce moment-là, dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Aucune trace de doute chez Jésus, aucune trace de recul. Il affirme à Marthe que son frère va ressusciter. Et alors, ce moment suprême où Jésus lève les yeux au ciel. On le voit tout avant discuter avec les uns et les autres. Et là, il lève les yeux au ciel. Et il parle à son Père. Pour montrer que cette force qui est en lui, elle n'est pas de lui en tant qu'homme, elle est de Dieu. Il dit, je sais que tu m'as déjà entendu, je sais que tu m'entends toujours, mon Père. Mais c'est pour que tous ceux qui sont là voient que cette puissance vient de toi et que tu m'as envoyé. Que Jésus était envoyé de Dieu pour sauver les hommes et leur donner la vie. Et alors ensuite, sa parole forte, Lazare, « Sors dehors !» pour exprimer cette puissance et cette puissance qui venait de Dieu. Et le mort sortit. Il est sorti tout en mailloté, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais entouré de bandelettes et avec un linge sur le visage. Et Jésus prononce des paroles de libération. Détachez-le et laissez-le aller. La vie a vaincu la mort. La vie a vaincu la mort. Vous voyez ce chemin de vie que Jésus a parcouru durant ces quelques jours dont on a raconté l'histoire. Un chemin parsemé de difficultés, mais un chemin de vie quand même, jusqu'au bout. Alors je veux donner cette parole que l'on chante aussi souvent parmi nous, victoire au Seigneur de la vie. Quand le Seigneur m'a mis au cœur ce texte biblique, je ne savais pas exactement pourquoi, et au fur et à mesure, il m'a montré que si nous allons parler cet après-midi de ce que nous pouvons vivre collectivement en Église, si nous voulons aussi en Église construire ou nous projeter sur un chemin de vie, il fallait aussi que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous soyons tous sur un chemin de vie. Parce que l'Église est faite d'individus. Et une Église ne sera jamais forte si les individus sont faibles. Une Église n'ira jamais vers la vie si les individus vont vers la mort. Et je veux simplement, à travers ce texte où nous admirons le Christ, qui est déterminé dans son chemin de vie, j'ai à cœur de nous poser la question. Est-ce que Jésus nous accompagne vers un chemin de vie? Il veut, j'espère avoir partagé ça aujourd'hui. J'espère que la parole de Dieu parle à chacun. Jésus veut nous accompagner sur un chemin de vie. J'aimerais poser à chacun, à chacune la question, es-tu sur un chemin de mort? Il y a plusieurs façons d'être sur un chemin de mort. Il y a la façon des chrétiens résignés qui ont dit « De toute façon, rien n'a jamais marché dans ma vie et je l'accepte et c'est comme ça. » Il y a ceux, il y en a parmi nous qui souffrent beaucoup et qui n'y sont aussi parfois pour rien du tout et qui peuvent se dire « Pourquoi moi ?» Une question qui n'a jamais rien résolu. Et qui peuvent demander aujourd'hui à Jésus « Au milieu de ce que je souffre, fais jaillir la vie. À travers ce que je souffre, fais jaillir la vie. » Il y a ceux peut-être qui ont vécu quelque chose avec le Christ et qui semblent trouver que leur vie est maintenant grise, que le Saint-Esprit n'est plus là, que le Saint-Esprit n'agit pas et qui accepteraient éventuellement ça parce qu'ils disent « En fait, c'est peut-être ça la vie chrétienne. » Alors je vous encourage, regardez ce Jésus qui est déterminé à donner la vie. Il y a peut-être ceux qui, en couple, s'habituent à vivre l'un à côté de l'autre sans plus jamais vivre ensemble, en se disant « Je crois que nous vivrons ça jusqu'à la fin. » Jésus veut donner la vie aussi. Il y a peut-être ceux qui, en famille, vivent des situations très compliquées. Là aussi, Jésus veut donner la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puis il y a peut-être aussi ceux, là j'ai parlé à des chrétiens, mais il y a peut-être aussi ceux qui ne connaissent pas le Christ. J'aimerais tellement que vous le rencontriez, lui, dans cette puissance de vie qu'il a et qu'il peut encore donner en 2016 à des gens qui habitent à Chartres et à des gens qui habitent à Honolulu et à des gens qui habitent à New York et à des gens qui habitent n'importe où. Il est là, le sauveur du monde. J'aimerais prendre un petit temps là où chacun puisse réfléchir. Suis-je sur un chemin de vie ou sur un chemin de mort? Et pour ceux qui discernent en eux un chemin de mort. Je ne vais pas non plus parler des personnes qui pourraient être vaincues par le péché, croire qu'elles sont vaincues par le péché alors que Jésus est victorieux du péché. Pour ces gens-là, je leur conseille d'en parler d'abord au Fils du Dieu vivant, à Jésus-Christ, à celui qui est le vivant. Et qui veut donner la vie. Ne cherchez pas d'abord de l'aide auprès des uns et des autres. Effectivement, dans l'Église, on peut aider et on doit s'aider les uns les autres. Mais ne cherchez pas d'abord des conseils humains. Adressez-vous au Fils du Dieu vivant qui a ressuscité Lazare et qui pourra vous ressusciter aussi, vous rendre cette dimension de vie spirituelle magnifique que l'on peut vivre sur cette terre et qui sera pleinement développée quand nous serons avec Jésus au ciel. Adressez-vous au Fils du Dieu vivant, il répondra, il l'a promis. Il nous a dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. Ça c'est dans le Deutéronome. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais il nous a dit « Choisis la vie ». Il nous a dit aussi, dans Romains 8, verset 6, il nous a dit aussi « La pensée de la chair, la pensée de l'homme, c'est la mort. Mais la pensée du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. » Il l'a dit, il le fera. Je vous suggère donc de penser que ce qu'il a dit à Marthe, il vous le dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ton choix. Amen.